bienvenue alors. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Frédéric Dupin, je suis professeur de philosophie à l'IUFM de Paris, et ça existe encore. Enfin, les deux. On fait une course pour savoir lesquels disparaîtront les premiers. Donc voilà, enfin, je travaille à l'IUFM de Paris. Donc, je suis également le fondateur d'une université populaire à Paris dans le 11e, dont le nom est écrit au tableau, qui s'appelle l'Université Conventionnelle. Vous verrez sur le site, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. Et on a une centaine d'heures, un peu plus, de cours comme ça, sous forme de fichiers audio que vous pouvez télécharger. Vous verrez plus amplement, si vous allez sur le site, un petit peu le tenant et aboutissant du projet. Quoi d'autre? Ben, je suis aussi membre de l'UFAL, l'Union des familles laïques, qui donc co-organise ce cycle de conférences. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'école, justement, à partir de l'intitulé suivant, hein, l'école organe de la République. Et donc, je vais essayer de vous parler une heure et quart maximum, afin qu'on puisse ensuite peut-être un petit peu revenir soit sur ce que j'ai dit, soit sur ce que j'ai pas dit, et de toute manière pour qu'on puisse échanger un petit peu sur les idées que je vais essayer de mettre en place. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, l'école, vous le savez, c'est une grande passion française. C'est un des lieux dans lesquels la France a eu souvent à se définir elle-même, et c'est vrai que de l'étranger, les passions que déchaîne la question scolaire laissent un petit peu sceptiques, hein. Souvent, autour d'une réforme, autour d'un point particulier, pour ou contre le redoublement, etc., vous verrez des déchaînements de passions qui peuvent rendre perplexe. Pourtant, ce qui me semble significatif des 30 dernières années, c'est que quand on parle d'école aujourd'hui, bah, finalement, on parle de moins en moins véritablement d'éducation. Si vous vous arrêtez un petit peu sur ce que les différents grands médias ou les journaux en ligne, les journaux pas de pied mettent en avant quand ils parlent d'école, c'est toujours beaucoup plus finalement des questions de société que des questions d'école. Je pense par exemple à la violence scolaire, qui est une réalité, mais qui, d'une certaine manière, interroge la société dans son ensemble. Le dernier grand événement, entre guillemets, le dernier Grenelle, puisque les Grenelles sont à la mode, de l'éducation, c'était en avril 2010, à la Sorbonne, et c'était les états généraux de la sécurité scolaire. Aujourd'hui, quand on veut faire un grand événement autour de l'école, on parle de violence scolaire, de caméras, de vidéosurveillance, etc. Autre question sur laquelle on parle beaucoup finalement d'école, mais peut-être pas tant d'éducation, c'est la justice sociale. C'est-à-dire quand effectivement on fait le procès d'une école inégalitaire, d'une école qui serait le lieu de reproduction de toutes les injustices, et où effectivement on la mettrait en demeure d'amener par exemple plus de jeunes issus des classes populaires vers des grandes écoles. Là encore, c'est une question importante. Mais parler d'injustice sociale, c'est parler pas seulement d'école. Hein. Et on peut se demander, même si évidemment l'école est un lieu où celle-ci se manifeste, si c'est bien sur elle qu'il faut faire peser tout le poids, par exemple, des injustices de la société dans son ensemble. En gros, ce que j'essaye de développer encore de manière très grossière, c'est l'idée que finalement, quand on parle d'école, aujourd'hui, on parle de la société, on parle de politique, mais beaucoup moins d'éducation, hein, de ce qu'on doit enseigner, de pourquoi on enseigne, de quel est le sens du métier enseignant, dont un des dommages collatéraux, entre guillemets, de cette éviction dont je vous parle, c'est le relatif discrédit, finalement, qui s'attache progressivement à ce métier, qui pouvait apparaître comme un des grands métiers exemplaires du service public, qui était porteur de valeurs démocratiques et républicaines, et qui aujourd'hui s'enfonce dans une forme de ce qu'on a pu appeler le malaise enseignant, c'est-à-dire une espèce de lassitude, d'incompréhension, qui se tisse entre les élèves, les professeurs, hein, les professeurs et les familles, les professeurs et les médias ou la société entière. Donc ce que j'essaie de dégager, c'est peut-être l'idée qu'on assiste à une forme d'effacement de la question scolaire, de l'horizon des grandes problématiques politiques de notre temps. y a un petit signe qui trompe pas forcément en l'espèce. C'est par exemple si vous confrontez le traitement de la question des retraites avec le traitement de la question de l'école, vous verrez que même à travers la réforme assez violente que les retraites ont connue récemment, on s'est toujours réclamé, même pour la détruire, etc., du modèle français. Là-dessus, on dit qu'il faut allonger, par exemple, le temps de cotisation pour préserver le modèle français de retraite par répartition, si vous voulez. Mais quand vous lisez des spécialistes de l'éducation parler d'école, le modèle français, il n'est jamais évoqué. Ou alors, il est évoqué pour être raillé, stigmatisé comme ringard, etc. À l'inverse, quand les questions d'école, elles sont souvent traitées d'une manière internationale. On nous donne systématiquement, par exemple, les pays scandinaves en exemple, en disant « regardez la Finlande », etc. Là-dessus, il y a une série d'enquêtes, dont la première a eu lieu en 2000, qui s'appelle les enquêtes PISA, qui sont organisées par l'OCDE, qui sont censées évaluer le niveau scolaire acquis par des lycéens entrant en seconde ou à différents niveaux, si vous voulez. Et dans les tests PISA, on met toujours en avant le fait que la France est loin derrière, par exemple, la Finlande ou d'autres pays. Toujours de manière à dire qu'effectivement, la France est en retard, que son école doit se mettre à l'heure ou au standard international, alors que sur d'autres questions, les Français sont prêts à se montrer beaucoup plus chauvins et à défendre plus âprement, bonsoir, leur propre modèle social. Donc, au fond, ces trois premières idées, si vous voulez, elles cherchent pas à faire autre chose qu'à mettre le doigt sur une évolution en cours qui fait que finalement, cette passion française qu'est l'école, bah, elle tend un petit peu à se métamorphoser. Et ce que je vais essayer de soutenir, c'est que cette relégation marginale qui fait que finalement les questions d'éducation, on le sait bien par exemple, c'est pas sur la question de l'école que risque de se jouer 2012. On peut le regretter, mais on voit bien que c'est pas aujourd'hui sur ce terrain-là qu'on attend les candidats, qu'on attend effectivement des positions qui soient clivantes, qu'elles soient de gauche ou de droite. Or, cette relégation, cette marginalisation progressive de l'école, dont j'ai indiqué quelques symptômes, il me semble qu'elle est très inquiétante, pas simplement pour les professeurs qui ont vu depuis 30 ans leurs conditions de travail, et je parle pas simplement financière, je veux dire l'évolution statutaire finalement du métier d'enseignant, l'évolution de leur formation. Vous savez que depuis cette rentrée, maintenant, il y a eu une réforme qu'on appelle de masterisation, c'est-à-dire ce vilain mot veut dire qu'en fait maintenant les professeurs sont recrutés au niveau master, bac plus 5, mais qu'ils perdent ils perdent tout stage professionnel. Avant, vous réussissiez un concours et vous aviez une année de stage où vous alterniez en gros responsabilité dans une classe et puis formation professionnelle au sein des UFM. Aujourd'hui, la formation des enseignants, elle est pratiquement pour l'essentiel reportée sur les universités qui font la formation initiale et sur les rectorats, en gros sur l'administration et puis les inspections qui sont censées faire la formation professionnelle. Bon, donc si vous voulez, ces évolutions statutaires ou financières, au-delà de ce qu'elle signifie pour des acteurs de l'éducation nationale, hein, les profs, les enseignants, etc., il me semble qu'elles interrogent assez profondément le modèle politique français, notamment son modèle politique républicain. Je vais expliquer un petit peu le sens de cette formule. Quand on dit l'école, organe de la République, ça a l'air un petit peu lyrique, etc. Il faut prendre cette formulation, se libeller un petit peu au sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, un organe, ça a une fonction vitale dans un organisme, justement. Si on vous enlève, vos poumons, si on vous enlève un rein, c'est pas comme si on vous enlève une main. On peut vivre sans main, on peut pas vivre sans poumons ou sans cœur. Donc quand on désigne l'école comme un organe, c'est qu'on suggère que l'école n'est pas juste un service qui est rendu par l'État, service qui pourrait être délégué à autre chose. Si on le considère comme un organe public, ça veut dire que la santé de l'école est déterminante, si vous voulez, pour la santé de l'État lui-même. Et qu'on ne peut pas, par exemple, se couper l'école de l'État, amoindrir sa fonction sans affaiblir l'ensemble du tissu social et du tissu politique. C'est ça l'idée. Or, ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est l'idée que progressivement, justement, l'école qui a je vais essayer d'expliquer comment et pourquoi, a eu une fonction éminemment politique, organique, c'est-à-dire que l'école était au centre du pacte républicain en France. Eh bien, ce à quoi on assiste depuis une trentaine d'années, c'est justement la fin de ce modèle. Pour de plus en plus aujourd'hui, l'école ne nous apparaît plus comme un organe essentiel, mais bien plus comme un service, hein, comme un service rendu à la personne, un service d'éducation qui peut être rendu plus gratuitement par le biais d'un service public ou évidemment privatisé sous la forme de chèques éducation, sous la forme d'officines qui viendraient délivrer des services à un marché qui serait celui de l'éducation. Donc ce que je veux essayer de mettre en avant devant vous, c'est cette évolution, comment est-ce qu'on passe d'une conception organique de l'école à une conception d'un service d'éducation, d'un service scolaire, qui en gros s'inscrit tout simplement dans une logique de privatisation de l'espace public, des services publics. Donc là-dessus, il n'y a pas une très très grande originalité, si vous voulez, en un sens, parce que évidemment vous êtes sensibilisé au problème de la libéralisation ou de la marchandisation, ça dépend comment on le dit, des différents secteurs de qui étaient auparavant administrés par l'État. Mais au-delà de cette privatisation, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on a quand même une évolution qui transforme le sens d'une éducation, hein, de ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire qu'être éduqué, qu'être instruit, et évidemment ça transforme éminemment le sens de nos institutions. À partir du moment où on coupe, par exemple, l'idée républicaine ou nos libertés civiles de l'existence d'une école publique. Bon, j'ai été un peu, là encore un peu abstrait, c'est normal, c'est une introduction. L'idée, c'est que dans une heure, vous compreniez bien mieux ce que j'ai essayé de vous montrer. Alors, comment je vais organiser mon exposé ? Deux choses. Je vais essayer d'abord de vous montrer, presque, de vous définir le dispositif de l'école publique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser l'articulation entre une école et un type d'État ? Et pourquoi une école publique et laïque est nécessaire à l'existence d'un État républicain, c'est-à-dire qui rend possible nos libertés civiles, etc. Donc ça sera vraiment au premier temps, je vais essayer de vous déplier à peu près tout le dispositif, ce qui donne sens, ce qui donne encore, mais ce qui peut-être plus sensiblement donnait sens à l'idée d'une école qui entretienne un lien vraiment organique, hein, vital, avec des institutions politiques. Puis dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer les différents aspects de sa remise en cause. À quel niveau est-ce que on a pu voir qu'on changeait entre guillemets de paradigme, d'essayer de mesurer les acteurs, hein, de ces changements de paradigme, puis d'en mesurer un peu les conséquences. Voilà, c'est le plan que je vais suivre. Donc peut-être pour commencer, essayer de préciser un petit peu le concept, l'idée d'école publique et laïque, d'école républicaine. Alors la première chose à souligner, c'est que c'est toujours une question amusante, c'est en matière d'histoire de l'éducation, c'est de savoir qui a inventé l'école. Hein, alors que c'est la réponse traditionnelle, il y a Charlemagne, hein, il y a Guizot, si on veut, avec les lois en 1833. Enfin, si vous voulez, c'est toujours, on peut dire Jules Ferry, on peut dire, les noms pourraient se bousculer. Mais la première chose à noter, c'est que finalement, toute société humaine se débrouille pour avoir des profs et une éducation. C'est-à-dire à assurer une fonction de transmission qui permet essentiellement de pérenniser les acquis d'une société. Parce que c'est pas tout, par exemple, de découvrir le feu. Si le type, le génie qui avait pour la première fois découvert le feu, avait été incapable de le transmettre en disant « voilà, c'est comme ça qu'il faut faire », sa découverte aurait été perdue, si vous voulez. Donc l'éducation, la transmission, est une fonction que toute société humaine instaure. Simplement, elle le fait par des acteurs qui sont très différents. Ça peut être des anciens, ça peut être des précepteurs, ça peut être des membres du clergé, ça peut être des professeurs salariés par l'État, etc. Donc première chose à noter, c'est que, évidemment, ça serait absurde de penser que Jules Ferry invente l'école. Ou que avant 1789, il n'y avait pas d'école. Parce qu'en fait, il y en avait plein. Et il y avait même une éducation qui, si on pense par exemple à celle qui existait au XVIIe siècle, dans les collèges de jésuites, dans les petites écoles de Port-Royal, c'était une éducation qui n'était pas ridicule, quoi, vous voyez, et qui même pouvait apparaître admirable par bien des aspects. Donc finalement, la République n'a pas inventé l'école, elle a inventé une certaine forme d'école, hein, un certain concept d'école. Et je crois que la première chose à comprendre, c'est que justement, avant d'être une institution et une réalité, avec ses défauts, avec son histoire, l'école, c'est d'abord une idée, une idée moderne, l'école républicaine. Et elle s'énonce diversement, là, mais un des textes où le concept d'école républicaine est le mieux défini, c'est un texte qui date de 1792 et qui est de Condorcet. Et qui c'est les 5 mémoires sur l'instruction publique. Alors c'est tout simplement Condorcet qui est parlementaire à l'époque, dans les temps troublés de la Révolution. Ben, il est en gros, on lui propose de rédiger des projets pour la future école, puisqu'on chambarde tout, puisqu'on remonte, puisqu'on est sorti de l'ancien régime, on essaye d'inventer un nouveau régime scolaire, entre autres, comme on essaye d'inventer un nouveau régime d'impôts, etc. Et ces 5 mémoires, c'est en gros le laboratoire dans lequel Condorcet esquisse le plan de l'école du futur. Hein. Bon, il y a des plans rivaux, notamment. Le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau, bon, c'est un révolutionnaire qui est concurrent à Condorcet. Et ce qui est intéressant, c'est de vous dire que ce texte-là, il va dormir à peu près 50-60 ans. Il est édité, etc. Mais c'est justement sous le Second Empire que les futurs constructeurs de l'école laïque et républicaine, celle des années 1880, ils vont redécouvrir Condorcet dans le contexte du Second Empire. C'est-à-dire alors que les républicains sont proscrits, qu'on est dans un le Second Empire, bah, on va pas le fêter, mais justement, on est le 2 décembre aujourd'hui, et bah, le 2 décembre 1851, c'était c'est la date du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui était à l'époque président de la République, premier président de la République française élu au suffrage universel, qui 3 ans après son élection renverse la République pour instaurer un règne personnel, une dictature, qui est celle du Second Empire. Donc, c'est un peu le crépuscule du républicanisme. Des gens comme Jules Ferry, etc. sont jeunes, mais c'est l'avantage, entre guillemets, des dictatures,
c'est qu'on a... Le Second Empire, c'est pas une dictature.
Oui, je suis d'accord.
Il faut arrêter avec ces conneries,
donc là.
Laissez
finir. Les questions viendront après, s'il vous plaît.
Bon, mais je
suis d'accord. Il faut être un peu plus nuancé, quand même.
C'était juste pour vous donner raison, effectivement. 1, 2, c'était pas l'objet de ma conférence de parler du Second Empire, où j'en parlerai pas avec les facilités que je vous demande de m'accorder, tout simplement dans le cadre d'une aparté. Voilà, c'est tout. Après, on pourra rediscuter de...
Là, il y a des raccourcis qui décrivent.
Eh bien, on en parlera, si vous voulez, après, quand j'aurai terminé. Donc ce que je voulais dire simplement, c'était juste un clin d'œil au fait qu'on était le 2 décembre, mais que le texte de Condorcet, c'est ça qui m'intéresse au fond, c'est de vous parler de Condorcet, le texte de Condorcet, c'est là-dessus que la génération des républicains qui vont essayer de construire une école laïque et républicaine dans le cadre de la Troisième République, eh bien, ils vont redécouvrir cette idée. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste ? D'abord, ce qui fait l'originalité de la pensée de Condorcet, si vous voulez, c'est que quand il pense l'école laïque, il la pense d'abord en tant que théoricien politique. Ce qui l'intéresse, d'abord, c'est la question de la République. Voyez. Et c'est ensuite, parce qu'il réfléchit sur la question de la République, qu'il va, en quelque manière, déduire une pensée scolaire, une pensée de l'école. Alors, la République, comment est-ce qu'il la conçoit, Condorcet, pour bien comprendre ? Bon, pour le dire assez vite, et sans... là encore, je pense que vous avez eu d'autres conférences qui traitaient beaucoup plus spécifiquement de la question de la laïcité et de la nature de l'association politique républicaine. Eh bien, pour faire quelques rappels, l'idée, c'est que, avec Condorcet, on essaie de fonder le lien politique, d'une certaine manière, sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer de fonder en raison les lois au lieu de les fonder par rapport, on va dire par exemple, à un fondement révélé, théologique, de l'État. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'on peut par exemple estimer que la loi commune, elle est enracinée dans un corpus de vérité révélée. C'est l'idée qu'il y a un fondement, par exemple, sacré de l'État. L'idée de Condorcet... c'est qu'il faut laïciser l'État. C'est-à-dire qu'on peut penser le lien politique indépendamment de toute valeur culturelle ou religieuse. Ça, vous en avez théoriquement déjà entendu parler, mais très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut penser la loi comme étant non pas l'expression d'une morale ou d'une culture particulière, parce qu'évidemment, ça pose le problème de son partage. Si on estime que, par exemple, une des grandes valeurs structurantes, si on veut fonder un État sur des valeurs morales, on peut mettre en avant des valeurs qui sont demeurant très respectables. Par exemple, tu ne tueras point, l'interdit du meurtre, le respect de la vie, on peut dire, tiens, ça, c'est des valeurs sensées. Mais en même temps, que dire à quelqu'un qui vous dirait, ah oui, mais ça, c'est vos préjugés, entre guillemets, je sais pas, moi, vos préjugés occidentaux, etc., parce que depuis ma culture, à moi, on pourrait avoir d'autres valeurs, si vous voulez. On pourrait considérer que le meurtre n'est pas scandaleux si on s'adresse, par exemple, à des gens qui ne partagent pas la même religion, etc. Donc, si vous voulez, fonder l'État sur des données culturelles, ça porte en germe la guerre civile, ou en tout cas le problème du conflit ou du choc des cultures. L'idée de Condorcet, c'est de mettre en avant bien plus l'idée qu'on peut fonder les lois autrement que sur des valeurs morales. On peut les fonder sur des nécessités rationnelles. Il y a une très belle formule de Condorcet qui dit, au fond, les lois doivent être justes comme un théorème de mathématiques est vrai. C'est la marque de son rationalisme, si vous voulez, de dire, voilà, ce qui est vrai, une loi est l'expression, en quelque manière, d'une vérité. Elle n'est pas l'expression du caprice ou des coutumes d'un pays ou d'une culture. Il y a également un autre passage où Condorcet polémique avec Montesquieu en disant « Montesquieu a tort de considérer que les coutumes d'un peuple sont ses lois. C'est des coutumes. Mais une loi, c'est pas des coutumes. Avoir, je sais pas, par exemple, l'habitude de manger à telle heure ou de s'habiller de telle manière, c'est des coutumes culturelles. Mais ça n'a pas force de loi. Ça ne peut pas prétendre à la dignité d'une loi parce que, précisément, c'est irrationnel. » Parce qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, de s'habiller. On n'a pas plus tort de manger à 7 heures que de manger à 22 heures. Donc on sait que dans les pays du Nord, on mange plus tôt que dans les pays du Sud. Personne n'a tort ou raison. C'est juste que ce n'est pas des questions de raison. Voyez. C'est des questions de coutume. L'État aurait tort de leur donner le statut d'une loi. Donc on doit déterminer en raison. On doit déterminer en raison les lois plutôt que de les fonder sur un arbitraire culturel. Alors pour bien le comprendre, il y a un deuxième exemple que je peux vous donner qui vous permet, je pense, de voir justement quelle est la différence entre se représenter une règle ou une loi de manière républicaine ou justement le fonder sur des valeurs culturelles. C'est un exemple tout bête, c'est celui de la ponctualité. On a souvent ressassé, par exemple à l'école, au lycée, où vous voulez, c'est toujours un enjeu pour que les gens arrivent à l'heure. Et leur dire faut être ponctuel. Bon, face au retardataire, si vous voulez, il y a deux attitudes. Un type arrive en retard et vous dites, mais quand même, quelle offense, c'est scandaleux, etc. Quel manque de respect pour le professeur, pour la classe, etc. Blablabla. C'est-à-dire, vous pouvez lui faire la morale. C'est-à-dire, prétendre que, par exemple, la ponctualité, c'est une exigence morale. Alors, le vrai problème, c'est que si vous avez un élève qui est vraiment insolent, qui arrive en retard parce que, justement, il s'en moque de l'école, il va dire, oui, j'y compte bien que ce soit insolent, etc., que ce soit un manque de respect, parce que c'est précisément ce que je signifie. C'est-à-dire que si vous exposez si vous expliquez la ponctualité en invoquant des raisons morales, si vous moralisez, vous rentrez dans un bras de fer entre guillemets psychologique ou moral. Mais il y a des raisons beaucoup plus simples d'expliquer que il faut être à l'heure. C'est que quand on fait quelque chose ensemble, si on ne se donne pas un lieu et un moment pour commencer, on commence jamais. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut expliquer l'exigence de ponctualité, non pas au nom d'une valeur quelconque, d'une morale, mais tout simplement en explicitant les nécessités qui sont les nôtres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est là encore, c'est un exemple qui est trivial, mais qui, je pense, peut vous permettre de sentir la différence qu'il y a entre une conception entre guillemets moralisante. De la loi, c'est-à-dire qui prétend s'appuyer, qui a pour implicite une forme de valeur quelconque, et puis d'autre part, une conception positive, rationnelle, des lois, en disant voilà, une loi, elle n'est pas là pour exprimer une grande vérité morale, elle est là tout simplement pour prendre en compte des nécessités et les accorder ensemble. Oui. Et bien précisément, le lien républicain, c'est l'idée qu'on peut fonder la loi uniquement sur les raisons d'ordre public et de nécessité collective, en mettant de côté tout ce qui fait partie de l'arbitraire ou de la liberté des individus en termes de choix. Voyez. C'est-à-dire que, là encore, on peut parfaitement concevoir un État qui s'impose cette discipline de ne trancher les questions que sur le fond de l'ordre public, c'est-à-dire des nécessités objectives. Je vais prendre un deuxième exemple qui, pour le coup, est plus sérieux, plus polémique. Mais comme c'est pas comme je fais ce détour pour vous parler d'école, ça va pas être l'objet. Puis de toute façon, vous avez déjà, je pense, déjà pu réfléchir dans le cadre des autres conférences là-dessus. Mais c'est par exemple symptomatiquement la question de la burqa, qui a été, vous le savez, un grand problème soumis à la nation, dans laquelle effectivement on pouvait trouver un cas typique, une pierre de touche de ce que c'est que la pensée laïque. D'une certaine manière, je vais juste prendre un exemple, sur la question de la burqa, on a parfois dit qu'il fallait l'interdire au nom de la dignité de la femme. C'est un argument qui est respectable en soi. Ce qu'il a de dangereux, c'est de supposer que l'État aurait, par exemple, à trancher sur une question qui est complexe, savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme digne, vous voyez. C'est-à-dire de trancher une question de valeur en disant finalement, la femme aliénée, la femme qui est indigne d'une certaine manière, ou diminuée, ou victime, c'est tel type de femme. En l'espèce, la femme qui porte le burqa, le niqab, ou la femme voilée, peut-être, ça dépend quel féminisme il y a eu tout un tas de, comme vous savez, tout un panel d'options qui avaient été évoquées. Mais d'une certaine manière, pourquoi est-ce que ça serait sortir du cadre laïque et républicain que de prétendre trancher la question de la dignité de la femme? Là encore, c'est pas l'objet que je veux traiter, et si la question vous intéresse, je vous propose qu'on en reparle dans la discussion. Mais l'État n'a pas à trancher, par exemple, si une femme voilée est plus aliénée qu'une femme que, par exemple, Paris Hilton, ou une femme une des femmes objets de la publicité. Vous voyez, on pourrait parfaitement entendre le discours qui consiste à dire, attendez, il y a des femmes qui sont plus libres avec un voile que certaines femmes qui sont obsédées et névrosées par les magazines féminins, vous voyez. Donc, de ce simple constat, on peut dire, est-ce que l'État, là-dessus, peut rationnellement définir ce que c'est que le concept d'une femme libre? Eh bien, au minimum, une femme libre, ça va être un homme libre aux yeux de l'État, c'est-à-dire quelqu'un qui jouit de ses droits, etc. Et donc, l'État serait prudent, si vous voulez, de rester justement dans ce qui est rationnellement explicitable. Et c'est pourquoi les arguments qu'on a pu mettre en avant pour interdire la burqa relevaient non pas d'un jugement que l'État n'a pas apporté, par exemple, sur ce que c'est que la dignité d'une femme, mais sur des questions d'ordre public. C'est-à-dire de considérer quel danger il y a à porter un masque en public. Vous savez que l'usage du masque est déjà réglementé. Tout simplement parce que je vous invite pas à le faire, mais si vous vous pointez dans une épicerie avec un masque de Mickey pour faire une blague, l'épicier peut prendre peur et sortir une arme, etc., et se dire on va me braquer, voyez. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, la visibilité, on peut considérer que du point de vue de l'ordre public, on doit réglementer l'usage des masques, hein, on peut pas faire n'importe quoi. Donc si vous voulez, ce lien républicain, c'est l'idée qu'on peut définir un ordre politique à partir de considérations d'ordre public. Bon, c'est comme ça que Condorcet essaye de dire, finalement, une république, ça sera un endroit où on élaborera les lois, non pas en vertu de l'arbitraire de chacun, qui tend toujours à écraser les positions minoritaires. C'est-à-dire, si on est tous d'accord pour savoir qu'une femme digne, c'est ça, etc., bah, ceux qui sont pas d'accord, et si la loi suit la logique majoritaire, alors on écrase les minorités qui pensent différemment. Concrètement, dans un État qui est non laïque, on le sait, les minorités religieuses ou culturelles sont persécutées. Elles n'ont pas voix au chapitre. Bon, ça, c'est un trait assez connu. Mais une fois que Condorcet a dit ça, en disant, voilà, la liberté publique, nos libertés publiques dépendent de la nature des lois et de la rationalité des lois. C'est-à-dire qu'il faut les expurger de toute forme de passion, parvenir à poser les questions en termes d'ordre public. Ben, Condorcet, quand il construit cette pensée constitutionnelle, il s'aperçoit d'une chose, c'est que ça se fait pas tout seul. Vous allez voir pourquoi. C'est que pour être capable d'apercevoir des nécessités d'ordre public, il faut être capable de penser, il faut être capable d'exercer sa raison. Hein, c'est-à-dire que, là encore, Condorcet voit bien que, spontanément, par nos passions mêmes, nous avons plutôt tendance à donner à nos propres valeurs, à notre propre perception des choses, nous aurions tendance à vouloir leur donner ce statut-là, hein, ce statut extrêmement contraignant de la loi publique, officielle. Voilà. Et sans vigilance, nous-mêmes, on peut le sentir dans nos propres préjugés, dans nos propres passions politiques. On a très vite fait de transformer ce qui nous tient à cœur, transformer notre propre regard, par exemple, sur la question des femmes, en loi définitive. Voyez. Or, Condorcet a bien vu que toute la difficulté, si vous voulez, c'est bien de parvenir à faire la part des choses entre ses valeurs et la raison. Et pour être capable de sortir, de juger ses propres valeurs, eh bien, ça suppose qu'on apprenne à raisonner. C'est-à-dire qu'on apprenne à penser autrement qu'en suivant ses propres passions. Donc Condorcet, vous allez voir, j'essaie de faire émerger la notion, en partant de son postulat constitutionnel, hein, il faut que la loi soit rationnelle. Ben, il dit, une loi ne peut être rationnelle, et elle ne peut rester rationnelle, parce que les hommes sont imparfaits, hein, que s'il y a des citoyens suffisamment vigilants pour définir des lois raisonnables, et puis pour les maintenir, voyez, contre les passions politiques, contre les passions humaines qui sans cesse ressurgissent. Donc, si vous voulez, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que le lieu de l'école, il est déduit par Condorcet politiquement. Hein. L'école, une république en a besoin, comme précisément condition de la rationalité des citoyens. C'est-à-dire que l'école est pour Condorcet le lieu où s'institue la liberté de conscience, la capacité critique, qui est la condition de la rationalité des lois. C'est-à-dire que sans école, eh bien, on voit bien, très vite, sans sens critique, sans instruction, tout simplement, le peuple va très vite abdiquer de ses lois pour n'être plus qu'une, si vous voulez, un troupeau agité par des passions publiques, par des passions politiques, qui fait que ça va tomber sur l'un, ça va tomber sur l'autre, ça va tomber sur le Rhum, ça va tomber sur qui vous voulez. Mais précisément, ça suppose une discipline. Donc, on voit bien, l'école publique, elle est définie par une finalité politique, qui est de former, d'éduquer des citoyens. Hein. Donc c'est l'exigence de citoyenneté qui amène les républicains à se dire, voilà, on ne fera pas de république sans école qui institue et forme des citoyens. Alors qu'est-ce que c'est que cette école ? D'abord, elle est définie, je vais prendre trois aspects pour la définir, sa finalité. Je vais préciser davantage ce que je viens de dire. Ensuite, le contenu de sa pédagogie. C'est-à-dire, à partir de sa finalité, on va pouvoir dire, bon, ben, comment on fait pour instruire un citoyen, c'est ça, pour l'éduquer. Et puis enfin, les moyens, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va s'instituer. Alors d'abord, sur la finalité de l'école, là, vous m'avez suivi, je l'ai déduite, maintenant on va essayer de l'analyser, de voir un peu plus proche, d'un peu plus près ce qu'elle est. Ben, sa finalité, j'ai dit, c'est former et éduquer un citoyen. Alors soyons clairs, un citoyen pour Condorcet, c'est pas... c'est quelque chose de très précis, c'est quelqu'un qui est capable de concourir à l'élaboration des lois et à d'exercer une vigilance qui, justement, permet de corriger les lois si, des fois, elles venaient à être mal écrites, si le législateur, si le gouvernant lui-même, par ses propres passions, quittait un petit peu le cadre républicain. Donc, le bon citoyen, si vous voulez, je vais reprendre une formule d'Alain, le bon citoyen, c'est le mauvais. C'est-à-dire pas celui qui souscrit aux valeurs communes et qui se fond dans la masse. C'est celui qui, le cas échéant, est capable de lever la main pour dire « Attention, là, on dérape, on sort du cadre, etc. » C'est-à-dire que Condorcet définit la citoyenneté comme une vigilance, si vous voulez, comme une vigilance de l'esprit critique contre les dérives incessantes de la politique et puis contre les passions dont nous sommes tous porteurs. Donc d'abord, former et éduquer un citoyen, ça ne veut pas dire conformer ou préparer au vivre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas faire avaler une idéologie quelconque, fût-elle droit de l'hommiste ou plutôt ou même sympathique. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on sait bien qu'on est incité à un certain nombre de vertus, le développement durable, etc. Faut être durable, faut être tolérant, etc. C'est des vertus qui sont saines. Mais on voit bien que assimiler et transmettre des vertus, dire c'est pas bien de rouler avec des grosses bagnoles, etc. C'est pas instruire, c'est moraliser. Je ne dis pas qu'il y ait une part nécessaire dans l'éducation qui relève justement de l'apprentissage des bonnes manières. Mais un citoyen, ce n'est pas quelqu'un qui se borne au fait d'avoir des bonnes manières, qui vit bien, on va dire, avec ses concitoyens. C'est quelqu'un qui est capable de faire un usage critique de sa propre raison et éventuellement, justement, de proposer des formulations plus rigoureuses, plus rationnelles de la loi commune. Bon, donc la finalité, former un citoyen. Former un citoyen, ça ne veut pas dire insérer socialement, socialiser, moraliser, ce que vous voulez. Ça veut dire mettre debout une intelligence. Alors deuxième point, Du coup, ça impose un programme à la pédagogie. Vous voyez, cette finalité-là, elle nous contraint à construire un programme scolaire qui se tient, quoi. Et ce programme doit répondre. Le cahier des charges, c'est de former un esprit critique. Ben, comment on fait ? Eh bien, précisément, ça permet de comprendre le sens de l'enseignement laïque. Hein, dans le cadre d'une école publique et laïque, ce que je soutiens, c'est que le caractère laïque de l'école impose une forme de pédagogie. Pourquoi ? Parce que si l'enjeu d'une école laïque, c'est de mettre debout, c'est de former le jugement et pas conformer le citoyen, ça suppose que l'école soit le lieu où on apprend à raisonner par soi-même, à penser par soi-même. Programme assez vaste, mais qu'on peut préciser un petit peu si on s'interroge sur ce que c'est que penser par soi-même. Eh bien, penser par soi-même, ça veut dire ne pas penser par la bouche d'autrui. Ne pas se borner à répéter comme un perroquet ce qu'on nous a dit, mais véritablement apprendre à comprendre ce qu'on dit. Et pour Condorcet, le terreau, le ferment premier de cette intelligence, c'est les mathématiques. Parce que en mathématiques, même dans les mathématiques les plus élémentaires, on sait ce qu'on dit. Et on sait pourquoi on le dit. Vous comprenez tous la différence qu'il y a entre apprendre par cœur une formule, la répéter, sans vraiment savoir pourquoi, au hasard, mais parce que bon, on a appris par cœur, par exemple, une table de multiplication, et puis le fait, quand on est face à un problème, de comprendre, c'est-à-dire de voir par soi-même. Descartes a une belle formule, il parle de lumière naturelle. Et voilà, qu'est-ce que c'est que l'usage de l'intelligence ? C'est s'éclairer soi-même par la lumière naturelle. Vous voyez, dans les BD, souvent, quand on a une idée, il y a l'ampoule qui s'allume. C'est-à-dire, et voilà, c'est ça. Il faut avoir séché sur un problème de maths. Quand les autres camarades ont compris autour, on dit bah non, moi je vois pas, je comprends pas encore. Et finalement, par un effort d'attention supplémentaire, enfin voir la vérité, comprendre, pour que là tout s'éclaire et qu'on comprenne justement ce que c'est que comprendre par soi-même. Or, justement, l'expérience des mathématiques, vous savez que Condorcet était un grand mathématicien, l'expérience des mathématiques, elle nous met à l'épreuve, elle est une expérience fondatrice pour Condorcet, parce que c'est vraiment l'expérience de la solitude du jugement. On est seul face à un problème de maths. Désespérément seul. C'est-à-dire que nul ne peut comprendre à votre place. Et vous pouvez pomper sur le voisin et récupérer la bonne réponse, mais vous n'avez pas compris. Vous pouvez faire croire que vous avez compris, mais c'est pas copier le résultat, c'est pas le comprendre par soi-même. Donc, pour Condorcet, les mathématiques sont le modèle d'une éducation critique, parce que c'est là où le citoyen fait l'épreuve de la solitude du jugement. Pour la petite histoire. Condorcet, qui a été proscrit parce qu'il appartenait donc il était proche des Girondins, il a été proscrit par le pouvoir jacobin en 1793 et notamment il a dû donc se cacher pendant 6 mois, il était dans une soupente, puis finalement comme il mettait trop en danger la logeuse qu'il cachait, il a décidé de fuir et il a été retrouvé à Bourg-la-Reine, je crois. Et il est mort il était arrêté, on l'a retrouvé mort, on pense qu'il s'est suicidé, enfin c'est un mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière semaine de vie, enfin hein, la dernière œuvre qu'il a écrit, Condorcet, c'est un manuel qui s'intitule Moyen facile pour apprendre à compter. C'est un manuel d'arithmétique élémentaire. Et c'est pas anodin de voir qu'un esprit de cette taille, de cette trempe, signe un peu comme dernière œuvre. Il savait que c'était fini, un traité de mathématiques élémentaires, parce que il estimait qu'un peuple qui sait compter véritablement est un peuple qui sait ce que c'est qu'être libre, qui sait qui fait l'épreuve de la singularité et de l'autonomie. Alors, du coup, sur ce modèle-là, on peut penser ce que c'est qu'une pédagogie laïque et républicaine. C'est une pédagogie qui est fondée non pas sur l'assimilation mécanique de contenu de savoir, l'apprentissage des perroquets dont je vous parlais, mais justement sur la construction d'une culture critique. Et c'est le propre de la pédagogie pour dire assez vite, c'est l'esprit des pédagogies qui sont développées dans le cadre d'une école laïque, c'est qu'on n'est pas là pour enseigner un credo, mais on est là pour permettre à chacun de problématiser ses idées, de critiquer, ainsi de constituer sa liberté de conscience et sa liberté de jugement. Je prendrai qu'un exemple, vous savez que qui peut sembler parfois délicat, sur la place de la religion à l'école. le fait religieux, enfin, ce qu'on appelle le fait religieux, a toute sa place à l'école. C'est-à-dire que quelqu'un d'instruit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit avoir quelques repères en matière d'histoire religieuse, savoir en gros quels sont les credos des différentes religions, enfin tout simplement être un peu cultivé sur ces questions-là. Mais l'enseignement du fait religieux à l'école n'est évidemment pas un enseignement confessionnel. C'est-à-dire que autant on peut comprendre qu'il est nécessaire de lire la Bible, tout simplement pour voir un petit peu, parce que c'est quand même des textes qui ont structuré l'humanité depuis des siècles, voire des millénaires, eh bien autant on voit bien qu'il y a une différence entre la manière qu'aurait un croyant de lire la Bible et la manière qu'un professeur l'a fait lire dans une classe. C'est-à-dire, il l'a fait lire précisément comme un texte profane qui est susceptible d'une interprétation culturelle, philosophique, littéraire, tout ce que vous voulez, historique, bien sûr, comme document d'une époque, mais il ne l'a fait pas lire comme l'expression d'une vérité qu'il faudrait assimiler et devant laquelle on devrait se taire et prier, par exemple. Donc, le contenu de savoir qui est délivré dans le cadre de l'école républicaine, c'est un contenu qui se veut critique, problématique, etc. C'est-à-dire qui cherche à éviter la leçon de morale ou la transmission brutale des connaissances. Bon, voilà, là on est encore au niveau du concept. Parce que évidemment, la mise en œuvre est toujours plus ardue que voilà une explicitation. On voit bien le principe, on voit bien l'enjeu. Après, comment ça se met en œuvre ? C'est le troisième aspect. Je vous avais dit, premier aspect, la finalité, éduquer et former un citoyen. Deuxième aspect, la pédagogie. En quoi est-ce qu'elle consiste ? C'est en gros former une pédagogie qui est fondée sur la problématisation et l'assimilation critique des savoirs, dont le modèle peut être pris en mathématiques. Et puis le troisième trait, c'est la question de sa constitution institutionnelle, les moyens. Comment on fait ça ? Bon, bien évidemment, c'est tout de suite plus compliqué quand on parle de moyens. Et il faudrait ici, on en a un petit peu parlé, s'intéresser sur tous les efforts, peut-être y compris et d'abord financiers, qui ont permis de donner un semblant de réalité au projet de Condorcet, projet qui est mort-né, hein, comme je vous l'ai dit, et qui a dû végéter pendant environ 60... Pendant presque un siècle, si vous voulez, avant de trouver des héritiers décidés à donner un semblant d'application à ces idées. Bon, alors les moyens, ça veut dire quoi ? C'est d'abord que les républicains qu'on a appelés opportunistes, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés au pouvoir dans les années 1880, sont des républicains qui avaient conscience de l'idée qu'une école publique, ça coûtait cher, et donc ça supposait une forte intervention de l'État. Notamment parce que ce qu'on appelait la première massification, la massification primaire, elle s'est souvent fait quand par exemple Guizot, on en parlait tout à l'heure, impose la création d'écoles primaires dans les communes pour de plus de 500 habitants. Évidemment, il y a des communes, même des communes qu'on dirait là encore avec un terme anachronique, progressiste ou soucieuse peut-être d'instruire d'instruction populaire, ces communes-là, ça vient que ça a un coût. Que trouver des salles, salarier un professeur, ça coûte cher. Donc l'histoire de l'école républicaine, c'est évidemment l'histoire d'une idée, mais c'est aussi l'histoire d'une institution qui a toujours existé de manière assez volontariste. Hein. Dans un rapport problématique entre l'État et son argent, et puis les collectivités locales, notamment les communes. Ce qui est intéressant, si vous allez à Paris, par exemple, dans l'explosion de la massification primaire, eh bien, l'État s'est quand même malgré tout beaucoup appuyé sur les communes pour construire les très belles écoles, d'ailleurs, qu'on a dans le centre de Paris, qui sont souvent de cette période-là, au tournant du XXe siècle, en gros. Et l'État s'appuyait beaucoup ici sur la munificence de certaines municipalités. Bon, mais on le voit bien que à partir du moment où, comme je l'ai dit, l'idée d'école républicaine supposait un fort engagement, d'abord, évidemment, ça j'en parlerai tout à l'heure, contre d'autres écoles rivales. Hein, c'est-à-dire que l'école républicaine, celle de la Troisième République, on a un peu tous et toutes en tête. Cette école-là, elle s'est aussi imposée face à un contre-modèle qui est l'école privée, dont je vais vous parler. Mais cette affirmation, ce volontarisme de l'État, il suppose une politique Hein, mais on voit bien qu'il suppose aussi parfois un certain nombre d'ambiguïtés. Et par exemple, ce qu'on a souvent reproché, même par exemple par des grands penseurs républicains et des grands professeurs comme Alain, c'est d'avoir toujours systématiquement mêlé à l'idée d'école laïque et républicaine dans ses réalisations concrètes une certaine forme de patriotisme. C'est-à-dire que l'école de la Troisième République, on le sait, c'est l'école d'une certaine manière, c'est l'école de Condorcet, mais c'est aussi l'école, c'est aussi une école de la nation, c'est aussi une école où on a peut-être tous en tête, vous savez, les planisphères avec où on vous représente l'empire colonial français avec manioc, aluminium, nickel, etc. C'est-à-dire, c'est l'école de l'empire français, si vous voulez, pour le dire très vite. Et donc, si vous voulez, là-dessus, en termes de réalisation, le bilan de l'école républicaine est évidemment un bilan qui est problématique et qui ne saurait se réduire à l'exposé de ses vertus, l'exposé abstrait des vertus et des intentions qui pouvaient être celles contenues, si vous voulez, dans le texte un peu matriciel qui est les textes de Condorcet. Et donc c'est à partir de là, je pense, qu'on peut réfléchir sur les différentes formes qu'a fini par prendre au XXe siècle et puis jusqu'à aujourd'hui la remise en cause de l'école, et c'était mon deuxième point. Hein. Donc je vais être peut-être un peu plus rapide là-dessus. La remise en cause de ce modèle-là. Bon, ma première idée, c'était de vous dire que ce modèle, d'abord, n'a jamais été pleinement réalisé. Et c'est toujours un peu important, parce que si vous voulez, quand aujourd'hui vous affirmez ou vous déclarez un défenseur de l'école républicaine et laïque, on vous fait passer pour de vieux nostalgiques, entre guillemets, en disant c'était mieux avant, il faut revenir en 1910. Ça présupposerait que l'école purement laïque et républicaine telle que je vous l'ai exposée ait jamais existé. Or, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que sa remise en cause, l'ambiguïté, la perversion du modèle est sans doute inévitable, et en tout cas se laisse constater assez bien depuis les premiers efforts de mise en œuvre. Mais finalement, concrètement, dans la remise en cause de ce modèle, on peut voir essentiellement trois types d'attaques. Qui aujourd'hui se sont, on peut dire, conjugués, et peut-être même aujourd'hui on est peut-être à une époque où ces trois attaques, ces trois types de remise en cause sont arrivés à une certaine forme d'osmose, de complétude, ce qui explique l'affaiblissement du modèle républicain à l'école et peut-être plus généralement. Alors le premier type d'attaque, elle est très ancienne, puisque les républicains de la Troisième République se sont positionnés essentiellement par rapport à celle-ci, c'est ce qu'on peut appeler l'école privée, c'est-à-dire la privatisation au sens étroit. Qu'est-ce qu'on peut appeler une école privée au sens strict ? Ben, y a essentiellement deux sens. C'est d'abord, comme nous, on pourrait dire, une école privée, c'est une école qui n'est pas publique, c'est-à-dire qui ne s'intéresse qu'à des individus, pas à tous. Alors qu'est-ce que c'est qu'en ce sens-là, une école privée ? Ben, c'est un modèle très ancien, c'est tout simplement, par exemple, le préceptorat. Dans le traité de pédagogie de Kant, vous avez une apologie de l'école publique. Il dit il faut que les États instituent une école publique aux frais de la nation, etc. Pourquoi ? Parce que Kant, comme tous les jeunes intellectuels, même de génie, qui étaient issus d'une classe modeste, il a commencé par gagner sa vie en étant précepteur. C'est-à-dire en étant au service de familles riches et donc qui s'occupaient de leurs enfants. Donc Kant sait très bien ce que c'est que l'école privée. C'est une école où finalement le professeur est considéré comme le domestique des parents. Oui, c'est ça l'école privée en un sens. La privatisation de l'école, c'est d'abord l'idée que la question de l'éducation des enfants est traitée par la famille uniquement. Voyez, c'est-à-dire que c'est les buts de la famille qui s'imposent au professeur. Il n'y a pas d'école publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt supérieur aux familles qui est capable de s'imposer dans l'éducation de l'enfant. Donc Kant sait très bien ce que c'est que le préceptorat, c'est-à-dire d'assimiler un professeur à un domestique. Et c'est là-dessus, si vous voulez, ça peut être assez intéressant, pour être un tout petit peu provocateur, pour se réveiller, c'est de se dire en quoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une privatisation qui tient aussi au statut du prof, quoi. Est-ce qu'on n'est pas de près ou de loin, parfois considérés comme des serviteurs de l'intérêt des familles, c'est-à-dire des domestiques qui sont gracieusement fournis à l'arbitraire des familles. C'est un premier aspect. Donc privé, privé, ça veut dire d'abord cette idée que il y a l'école ou l'éducation est au service d'intérêts privés, non pas d'intérêts publics, collectifs. On comprend bien pourquoi est-ce que l'école de Condorcet, par exemple, elle est au service d'intérêts collectifs, puisque elle est pensée à partir d'une idée de la loi, de l'État, de la nature de la loi. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt du public qu'on institue une école. C'est pas dans l'intérêt des individus. C'est dans l'intérêt des libertés de tous. Le deuxième aspect de l'école privée, qui nous est peut-être le plus familier, c'est l'école confessionnelle. Et finalement, ça redouble ce que je disais. Parce que finalement, quand on parle d'école privée pour école confessionnelle, c'est-à-dire école religieuse ou, si vous voulez, qui dispense un credo, c'est qu'on voit bien que ce credo a une dimension privée. D'abord parce qu'effectivement, il renvoie à la formation d'un individu qui va assumer une foi, etc. Mais plus généralement, quand on comprend que, une école privée, elle professe une doctrine particulière, singulière. Oui. Aujourd'hui, vous êtes, par exemple, j'en reparlerai tout à l'heure, la liberté de l'enseignement étant garantie en France, si vous voulez donner une éducation traditionnaliste à vos enfants, par exemple catholique, ou parce que c'est le cas, c'est la majorité actuellement des écoles hors contrat, des écoles ultra-orthodoxes juives, vous pouvez le faire. Et là, effectivement, vous donnerez à vos enfants une éducation où vous aurez, par exemple, ce qui ne fait pas partie des programmes de l'école publique, 6 heures d'hébreu par jour, etc., et de la culture talmudique. Bon. Mais quand je parle ici d'école privée, c'est qu'on voit bien que c'est une école singulière, c'est-à-dire qui se met au service d'une tradition qui, d'une certaine manière, exclut les autres. Hein. Alors que l'école publique, telle qu'elle se pensait comme laïque, comme je l'ai dit, elle parle de tout. Elle traite de tout. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas ce dont elle traite, mais comment elle le traite ? C'est-à-dire qu'on peut, on peut même traiter du Talmud, entre guillemets, en cours d'histoire, etc., dans l'école publique. Mais on doit le faire de manière critique, c'est-à-dire expliquer ce que c'est, le rapporter à des traditions philosophiques, historiques, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on doit le problématiser. On ne doit pas l'enseigner comme une vérité ou une discipline confessionnelle à pratiquer soi-même dans le cadre de son culte. Donc, deux formes de privatisation, l'instrumentalisation au service des intérêts de la famille, et puis, bien sûr, la mise au service de l'école, la mise de l'école au service d'une croyance singulière ou particulière. Bon, on voit bien que l'histoire de l'école publique en France, elle est faite de polémique avec cette autre école, cette école privée. Vous le savez, je vais pas en marquer les jalons, mais l'école privée a assez mal vécu l'instauration d'une école publique qui lui faisait une concurrence assez assez féroce, et dans tout le siècle écoulé derrière nous, eh bien, on a pu voir un certain nombre d'assauts, notamment dont le plus récent, vous l'avez peut-être en tête, c'était en 93, sous le ministère François Bayrou, une réforme de la loi Fallou qui devait étendre la possibilité de subvention de l'école privée par des communes et des choses comme ça. Donc là encore, c'est une histoire assez ancienne. Elle a acquis aujourd'hui, j'en parle parce qu'il y a un ouvrage assez récent, je crois même que je l'ai d'ailleurs sur moi, qui est sorti là-dessus, qui s'appelle « Main basse sur l'école publique », dédié Caldi. Je vais vous faire passer le bouquin si vous voulez, qui met en lumière comment est-ce que, par exemple, depuis quelques années, une dizaine d'années, on assiste à un renouveau de l'école privée qui est devenue très combative et qui gagne des marchés, des parts de marché, notamment dans les territoires un petit peu perdus de l'école de la République, puisque on a assisté à, notamment dans le 93 par exemple, à l'éclosion de nouvelles écoles privées, où l'État se montre plus que favorable finalement à cette éclosion. L'amoindrissement la suppression de la carte scolaire participe également de ces mouvements-là. Bref, le livre d'Eddie Caldi fait à peu près le tour sur une alliance qui semble au début contre nature, mais finalement qui ne va pas vous surprendre si vous avez compris ce que j'entendais par école privée. C'est-à-dire, d'une part, d'un côté, des mouvements ultra-confessionnels qui veulent reconfessionnaliser l'enseignement en France, et d'autre part un courant ultra-libéral qui veut investir le marché de l'éducation et donc satisfaire davantage les familles, quoi. Parce que c'est, d'ailleurs, vous savez que là, en 2007, quand on a supprimé la carte scolaire, c'était au nom de l'intérêt des familles, évidemment, pour qu'elles puissent enfin choisir leur école, etc. Bon, donc vous avez une première ligne de front qui est la question de la question du privé, de la privatisation au sens étroit. Bon. La deuxième ligne de front, est une ligne qui est plus récente, mais si vous avez suivi un peu près les questions scolaires depuis 30 ans, ça a été la ligne de front peut-être la plus visible. C'est tout ce qui tourne autour du contenu de l'école. C'est notamment ce qu'on a appelé non pas la guerre scolaire, c'est la guerre du privé contre le public, mais ce qu'on a appelé la querelle de l'école. La querelle de l'école, c'est un peu c'est un classique de la réflexion sur l'école en France. C'est la querelle entre deux conceptions pédagogiques différentes. Pour faire vite, si vous voulez, je vais prendre les termes qui ont fleuri dans la presse pour les désigner. L'opposition d'un clan qu'on a appelé des pédagogues ou du pédagogisme. Évidemment, quand vous êtes de l'autre bord, vous appelez pédagogisme. Hein, c'est une manière de dénigrer. Et puis, de l'autre côté, les républicains ou néo-républicains qu'on peut appeler aussi des fois les néo-réactionnaires. Ça, c'est quand vous êtes de l'autre bord, vous voyez. Bon. Donc, cette querelle entre républicains et pédagogues, c'est un des grands lieux de combat autour de l'école. Et pour le dire vite, comment c'est parti d'où ? C'est parti d'une remise en cause au sein... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle divise au sein de l'école publique. Hein, le privé n'en est pas, l'école privée n'a pas été directement un acteur. La querelle entre républicains et pédagogues divise l'école publique et même, disons-le, la gauche du gouvernement, puisque ça, c'est une querelle qui va s'épanouir dans le premier septennat de, enfin, elle va vraiment se lancer au cours du premier septennat de François Mitterrand. Pourquoi réfléchit-on là-dessus et quel est le problème? En gros, depuis, vous avez toute une tradition pédagogique qu'on va appeler de l'école nouvelle, qui a émergé tout au long du XXe siècle. Hein, en 1920, vous avez le premier congrès de l'école nouvelle à Paris, et un certain nombre de personnalités qui vont naître, par exemple Freinet, qui est un instituteur. Un instituteur qui est également militant communiste, mais qui va se mettre en avant une nouvelle pédagogie qui est respectable et puis qui a des tenants qui ont... Il y a 15 jours ou 10 jours à Paris un colloque sur la pédagogie Freinet, hein, donc c'est encore vivace. Cette école nouvelle remet en cause la pédagogie républicaine, hein, la pédagogie critique dont je vous parlais tout à l'heure, elle est remise en cause. Pourquoi ? Deux raisons. Essentiellement, par exemple, si vous pensez à Freinet, il met en avant le caractère livresque, élitiste et finalement très abstrait de cette éducation. Il estime que finalement, le paradigme républicain, c'est en gros le paradigme de l'école de l'élite, hein, des bourgeois, des intellectuels, dont la figure cardinale, c'est le normalien, quoi, si vous voulez. Or, Freinet dit que c'est pas cette éducation qu'il faut au peuple. Le peuple, il ne faut pas le former à coups de mathématiques, etc. Le peuple, il doit s'émanciper dans le travail. Et donc, il faut penser une pédagogie qui est plus active, qui est plus concrète, qui est plus tournée sur les vrais intérêts du peuple. Hein. Et par exemple, on sait qu'un des aspects de la pédagogie Freinet, c'est ce qu'on a pu appeler la pédagogie par projet, là encore pour aller vite. C'est l'idée que l'école est un lieu où on travaille, où on fait des choses. Non pas où on transmet des savoirs, mais où on va produire des choses. Et par exemple, Freinet organisait lui-même, avait transformé d'une certaine manière sa classe en imprimerie. On y éditait un journal, qu'on envoyait à des correspondants. Bref, on n'écrivait pas pour lire Victor Hugo, on ne lisait pas pour assimiler la grande culture, si vous voulez, en un sens. On lit, on écrit pour dire des choses à ses amis, pour éditer un journal syndical, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose. Ça, c'est pour Freinet, mais dans la voie ouverte, vous aurez tout un discours qui va se construire et qui va dire, au fond, le modèle de l'école laïque et républicaine reste un modèle qui est pédagogiquement extrêmement en retard et extrêmement aliénant. Parce qu'il est élitiste, parce qu'il est aussi, autre adjectif qu'on a mis souvent en avant, il est trop transmissif, il accorde trop de place au savoir, pas assez à l'action, à l'intelligence concrète, etc. Et donc vous allez avoir un mouvement pédagogique qui va essentiellement regarder l'apprentissage et l'éducation, non pas comme la formation d'un esprit critique à travers tous les artifices, par exemple de l'exercice scolaire, etc., mais comme le développement harmonieux d'un individu actif. Oui, bon, c'est pour aller un peu vite, mais vous avez d'un côté une pédagogie qui est fondée sur l'exercice, sur la répétition, sur la violence faite à soi d'une certaine manière. C'est ça la contrainte scolaire. Enfin, la construction, le calcul mental, le latin, toutes ces disciplines qui structurent certes l'intelligence, mais fabriquent de l'intellectuel entre guillemets. Eh bien, face à ce modèle-là, va se construire un discours pédagogique qui va mettre en avant l'inventivité, la créativité de l'enfant, de l'élève, et donc qui va se concevoir plus comme un accompagnement du développement. Donc on voit bien que là-dessus, il y a une première ligne de conflit entre une figure du professeur qui se pense comme un éveilleur de l'esprit, qui éveille par la contrainte, d'une certaine manière, par la discipline scolaire, par l'âpreté des exercices, hein, la dissertation avec ses codes, ses lourdeurs, vous voyez, ça fait très Troisième République en un sens. Bon, vous avez ça, et puis de l'autre côté, un discours pédagogique qui va avoir pour fin l'épanouissement harmonieux des individus. D'accord. Le premier aspect de la remise en cause pédagogique de l'école républicaine. Et vous avez une deuxième forme de critique qui, dans la querelle entre républicains et pédagogues, s'est mêlée. C'est une critique politique de cette pédagogie. Vous avez bien saisi la critique pédagogique, c'est-à-dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. Il y a une critique politique, qui repose sur une analyse de l'école comme étant un mode de sélection par l'échec, comme un mode de, c'est une critique de la méritocratie, si vous voulez. Un des textes fondateurs, c'est le texte de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, La Reproduction, qui, je crois, date de 1962, début des années 60, et qui voit dans l'école traditionnelle, non pas le creuset de l'émancipation d'une forme de citoyenneté, etc., mais tout simplement l'instrument qui permet de reproduire et de pérenniser les rapports de domination sociale. C'est-à-dire, évidemment, on met en avant statistiquement les très faibles chances qu'ont des élèves issus des classes populaires ou ouvrières d'accéder à l'école normale supérieure, à Polytechnique, etc. Bon, donc cette dénonciation-là, elle vient, si vous voulez, là encore, porter le fer contre le modèle d'éducation laïque et républicaine, au nom justement, en gros, c'est la démystification. Il faut vous dire, c'est l'atmosphère d'une démystification marxiste. On nous dit, on émancipe. En réalité, si on regarde les rapports de force sociaux, etc., ce qui se passe, c'est que cette fameuse école qui doit former des citoyens rationnels, c'est une école qui sert à exclure les pauvres de toute forme d'émancipation économique. Voilà. Bon. Et si vous voulez, ces deux aspects font que depuis 30 ans, on s'écharpe sur des questions justement pédagogiques et toujours en même temps sociales. Parce que vous voyez bien, dire que l'école doit être un lieu où on apprend avec rigueur, où effectivement la discipline intellectuelle doit être forte, cette thèse-là a souvent été critiquée en disant bah, « finalement, vous êtes élitiste, vous êtes pour que les enfants du peuple n'y arrivent pas, etc. » Voyez. Donc il y a une intrication de ces deux niveaux d'argumentation qui, évidemment, ont divisé la communauté enseignante depuis 30 ans. Enfin, quand je parle de diviser, c'est il y a des gens qui se haïssent, si vous voulez, sur ces prises de position-là. Assez régulièrement, les journaux, les magazines, par exemple, les hebdomadaires, font des unes sur la question de l'école, où on ressort, si vous voulez, quelques figures emblématiques des deux positions qu'on invite à dialoguer, à débattre. Évidemment, ça peut tourner en foire d'empoigne, mais évidemment, sans dire qu'il y a raison ou tort dans ce débat-là, on voit bien que cette remise en cause de l'école par elle-même, parce que ça intéressait qui, ça, des profs, vous voyez, a énormément affaibli l'institution, c'est-à-dire que une institution qui s'était pensée très sûre d'elle-même s'est affaiblie parce qu'elle finissait par se demander à quoi elle servait. Il y a des arguments de part et d'autre qui portaient, si vous voulez. Donc cette bagarre, elle a pu affaiblir collectivement l'école républicaine. Et c'est en ce sens-là où, par exemple, On comprend qu'il y a un renouveau, c'est ce dont parle Eddy Kaldi, par exemple, qu'il peut y avoir un renouveau de l'école privée qui date d'une quinzaine d'années, précisément quand les forces au sein de l'école publique se sont aussi un peu épuisées dans ces querelles un peu byzantines, vous voyez. Donc bon, ça fait sens. Et puis, il y a une troisième remise en cause dont je vais vous parler, et qui me paraît peut-être la moins inaperçue, la moins aperçue, et que je trouve peut-être la plus profonde, la plus intéressante, celle que je comprends le moins bien peut-être aussi, enfin, mais je vais vous la livrer quand même. Elle tient justement à une, j'allais dire là encore, une remise en cause des moyens de l'école. Des moyens de l'école. J'ai dit, c'est symétriquement, il y a une remise en cause au niveau des finalités, c'est la question de la privatisation, du privé, une remise en cause au niveau du contenu, c'est la question pédagogique que j'ai essayé de développer, puis il y a une remise en cause sur la question de la nature de l'institution et de ses moyens. Pour le dire assez vite, c'est la question de la massification, en fait. Dans les années, un grand ministre de l'éducation nationale, par exemple quelqu'un comme Jean Zay, ministre du Front Populaire, était le ministre d'une petite administration. Et finalement, quelle que soit la grandeur de ses idées, etc., parce que Jean Zay, vous savez, était aussi un grand résistant, qui est mort assassiné par la milice, il restait finalement le ministère de l'instruction publique. C'était quoi sur la Troisième République? C'était le ministère des esprits. C'était un ministère noble, mais c'était pas un grand portefeuille. C'est un peu l'équivalent du ministère de la culture aujourd'hui, si vous voulez. On peut dire c'est intéressant parce qu'on parle avec des artistes, si vous voulez. Mais c'est pas un grand ministère régalien où on a vraiment du pouvoir. Or, en fait, aujourd'hui, si vous avez, peut-être pour vous donner un ordre d'idée, l'éducation nationale, c'est une administration qui s'occupe de la vie de 15 millions d'élèves. 15 millions d'élèves, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, cette massification, c'est-à-dire le fait que globalement, de près ou de loin, un quart, un peu plus, un peu moins, ça dépend si on inclut les BTS, les Greta, tout ce qu'on veut, on peut se dire que aujourd'hui l'école est devenue une immense administration, une immense autoroute à laquelle nous avons tous eu affaire et à laquelle nous avons tous de près ou de loin affaire, quoi. L'État a, on a l'essor de l'école au XXe siècle, c'est aussi l'école d'une administration qui a pris une dimension un peu parfois tentaculaire, mais c'est l'essor du fameux mammouth, quoi. Quand Claude Allègre parlait du mammouth de l'éducation nationale, il évoquait justement cette immense administration qui pose d'énormes problèmes, pour jargonner, de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous avez une administration tellement énorme, tellement hiérarchisée, tellement complexe, qu'est-ce que vous voulez, enfin, comment conduire une politique cohérente face à quelque chose d'aussi énorme? Bon. Donc ces problèmes-là, il y a un problème qui tient justement à la nature de l'école, hein. Dans certains aspects, la massification peut apparaître, c'est comme ça en tout cas que, par exemple, quelqu'un comme Jean Zay voulait l'étendre, l'école, comme un progrès démocratique. C'est-à-dire, on reste dans la ligne républicaine de former davantage de citoyens, d'une école de l'égalité, etc. Bon. Et puis, on peut pas être contre, quand on est humaniste, la diffusion du savoir. Par d'autres aspects, la massification, ce qui fait que son ambition est parfois, enfin, sa réalité est parfois complexe à évaluer, on peut aussi se demander si cette massification n'a pas renforcé les mécanismes de sélection. Hein. Un petit paysan de l'Orléanais comme Peggy pouvait devenir, il était repéré, et à coup de bourse, il arrivait jusqu'à Normal Sup, vous voyez. Aujourd'hui, on peut peut-être se demander si, en fait, la massification n'a pas rigidifié les clôtures sociales, loin de les aider. Bref, les sociologues, évidemment, comme vous l'imaginez, discutent de ces questions-là. Mais je ne vais pas les trancher, je vous rappelle simplement qu'elles existent, et qui fait que, là encore, le malaise qu'a la société française à l'égard de son école tient aussi au fait qu'il est très difficile d'évaluer les bénéfices réels de la massification. Et c'est pour ça que vous voyez que, par exemple, une réforme phare qui s'est construite en gros en 12 ans, celle du collège unique, c'est-à-dire vraiment le même collège pour tous les enfants. On a fusionné toutes les voies qui avant étaient des voies en gros des collèges d'enseignement secondaire, les voies d'apprentissage. On les fusionne pour dire tous les enfants de France iront dans le même collège et il n'y a qu'un seul système secondaire. Bon. On a réinstauré, après vous le savez évidemment, des passerelles pour faire de la sélection à l'intérieur de cette même autoroute. Hein. Bon, ça on le sait. Mais si vous voulez, là encore, la question du collège unique, aujourd'hui, elle est... on sent qu'elle fait débat. Ce qui était un consensus en disant on continue la démocratie, etc., en étant... Aujourd'hui, on voit bien que le collège unique est remis en cause, même par ses anciens partisans, parce qu'on voit bien que la question de la massification scolaire reste problématique et difficilement peut-être encore évaluable. Donc je ne veux pas parler de cette question-là, je veux développer une dernière idée qui se pose, enfin, poser une question qui se pose assez rarement, je trouve, qui est la question de savoir au fond pourquoi et comment, en fait, on a pu, tout simplement pu, je parle des moyens, on a pu développer cette école unique et faire la massification. Ben, on l'a fait assez classiquement parce que l'État a investi. A investi énormément, notamment, par exemple, dans les années 60 et 70, la France se couvre de collèges. Se couvre de collèges qui doivent répondre aux nouvelles ambitions démocratiques de l'école. Ben, finalement, cet investissement, il n'allait pas de soi, pas plus que tous les que n'importe quel investissement et les investissements précédents dont j'avais parlé. Et un aspect intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que l'État, au début, on va dire fin des années 50, début des années 60, va souscrire à l'idée d'un investissement massif de l'État dans les questions d'éducation. Ça, c'est un aspect conjoncturel qu'on oublie et qui est en train de revenir à la surface, il me semble. On est en train de faire l'histoire de cet investissement. En fait, ça se passe dans le contexte international. Il faut d'abord le mettre dans le plan international, qui est un certain nombre de théories économiques. La plus connue est la théorie du capital humain. La théorie du capital humain, c'est une théorie économique qui interprète la croissance. Vous savez que globalement, dans une économie productiviste, on peut dire que la plus-value, la croissance, elle s'obtient par le travail et la rationalisation du travail. Ça, c'est le vieux fordisme, si vous voulez. Et la théorie du capital humain, c'est une théorie qui stipule que, en fait, la plus-value et la croissance, elles s'effectuent moins sur la rationalisation du travail que sur le niveau de qualification des acteurs. L'idée, c'est que plus on a un travailleur qualifié, plus, en fait, la croissance va être forte. C'est ça la théorie du capital humain. C'est l'idée que le capital, au sens financier, il se développe s'il y a des investissements massifs en recherche et en éducation. Et c'est pourquoi les théories du capital humain, le corrélat, c'est la théorie donc, du capital éducatif. C'est l'idée que c'est en développant son capital éducatif, son capital de formation, si vous voulez, que le travailleur va gagner en efficience et va gagner, c'est le grand mot, en employabilité. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a plus de capital éducatif, il est plus employable que s'il était sous-éduqué. Voyez. Pour la petite histoire, en 1963, l'ONU monte un institut qui s'appelait l'Institut de planification éducative. J'ai pas retrouvé comment est-ce qu'il s'appelle maintenant, mais je pense que planification éducative, c'est plus des termes. Mais à l'époque, dans les années 60, on pouvait construire un institut de planification éducative, c'est-à-dire construire c'était des économistes qui réfléchissaient sur comment optimiser les systèmes éducatifs de manière à améliorer la croissance. Voyez. Et si vous prenez quelqu'un comme, quelqu'un qui était un proche de Gaulle, qui s'appelait le recteur Jean Capelle, CAPE2LE, écrit, je crois que c'est en 63, un bouquin qui s'appelle « L'école de demain est encore à venir, est encore à construire, pardon. L'école de demain est encore à construire. » C'est un manifeste des théories d'un volontarisme étatique en disant « Il faut construire l'école de demain », c'est-à-dire utiliser l'école comme une manière, dans une idée assez gaulienne, hein, si vous voulez, de développer la France, de lui donner des vraies infrastructures, etc., et d'élever le niveau économique de toute la nation. Ce qui est intéressant, donc, que ça soit dans Capelle ou dans ces théories du capital humain, c'est que on voit bien que, d'une certaine manière, l'État n'a pas investi dans l'école avec la candeur d'un lecteur de Condorcet. Mais rassurez-vous, c'était pas le cas de Jules Ferry. Jules Ferry, il investissait dans l'école parce que c'était un humaniste, mais aussi parce que c'était un patriote qui voulait former toute la génération qui va mourir dans la guerre de 14, hein, et qui aura été bercée au patriotisme scolaire. Bon. Donc évidemment, l'État fait son travail, c'est-à-dire qu'il conduit des politiques, et pour ça, il définit des buts politiques. Ce que j'essaie de suggérer, c'est qu'au fond, au niveau des moyens, l'abondance d'argent et de moyens qui a été développée pour créer une école publique ne l'a pas nécessairement été... on pourrait dire naïvement, pour former des citoyens condorcétiens, si vous voulez. Ça a été aussi pour accomplir le projet de Jean Cappel, qui est un projet qui n'est pas illégitime, hein, qui consistait à élever la qualification des travailleurs de manière à faire en sorte que on cesse d'avoir des ouvriers qui auraient pu devenir, par exemple, ingénieurs ou cadres, et qui, faute d'avoir cultivé leur capital éducatif, finalement, perdent leur énergie dans des activités qui sont sous-productives au niveau de la nation. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie du capital humain, cette question des moyens, elle fait naître une vision de l'école qui n'est pas une vision politique, qui n'est pas une vision confessionnelle, mais qui est ce qu'on pourrait dire une vision utilitariste ou économique, qui considère que le système éducatif a pour but essentiellement, certes, enfin essentiellement, après c'est ça qui est en débat, certes sans doute de former des intelligences, etc., mais surtout de développer le capital éducatif des gens au service de l'insertion sociale et professionnelle, vous voyez. Et c'est vrai que ce système-là pouvait être crédible dans des phases de croissance, effectivement. Et le drame du collège unique, c'est que il a commencé à être en place au moment, évidemment, où avec les chocs pétroliers, la croissance en France a commencé à décroître, et où justement les promesses de renouveau et d'employabilité pour tous, eh bien, elles ont commencé à perdre un petit peu de leur brillant, et où on a bien vu finalement que c'est pas forcément en allant à l'école et en prolongeant sa formation très très loin qu'on pourra effectivement avoir optimisé son employabilité et avoir par exemple un salaire qui soit proportionné à ses études. Et c'est vrai que si vous voulez, c'est encore un des aspects dans lequel on est, notamment par exemple dans le cadre encore de la masterisation ou du plan licence de Valérie Pécresse, qui consiste à dire qu'il faut se donner des horizons pour avoir par exemple 30% d'une classe d'âge qui arrive au niveau licence ou master, etc. On le fait pas par simple humanisme ou pour démocratiser le savoir. On le fait aussi dans le cadre d'une compétition économique qui est par exemple la peur de la fuite des cadres, etc. Et de l'idée que dans des économies tertiarisées comme les nôtres, bah, la plus-value, elle ne s'effectue pas sur la production d'usines, c'est-à-dire mais au contraire, sur la production d'ingénieurs, de personnes qui sont capables d'aller produire de la plus-value par des innovations, par des brevets, etc. Donc, j'en ai presque fini. C'est, si vous voulez, la troisième ligne de front qui permet de remettre en cause et de situer un petit peu, je pense, plus nettement la question scolaire aujourd'hui, c'est cette question de la compétitivité. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que, d'ailleurs, finalement, aujourd'hui, quand on parle d'école, on nous rebat les oreilles de compétitivité internationale, de formation tout au long de la vie, de validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire, finalement, de parler non pas d'éducation ou d'instruction, mais de parler d'employabilité. Bon. Donc je résume, puis je conclue. Qu'est-ce que j'ai voulu essayer de vous montrer aujourd'hui? Je voulais essayer de réfléchir avec vous sur la question des évolutions du modèle scolaire français. Ce modèle scolaire qui a la singularité d'avoir été pensé, d'avoir été voulu. Enfin, c'est-à-dire que la France a été le lieu d'une vraie réflexion sur l'école, de vraies ambitions, et ce modèle français, il s'est pensé dès l'origine comme un modèle politique, c'est-à-dire comme une manière de mettre l'instruction, l'éducation au service d'une conception du lien politique et de la liberté civile. Alors, j'insiste, c'est encore une conception qui est très originale. Si vous prenez, par exemple, en Allemagne, à la fin du 19e siècle, vous avez toute une réflexion sur la place des établissements scolaires. Mais elle n'est pas du tout politique. Vous avez un grand texte de Nietzsche qui s'appelle « Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement », où en fait Nietzsche s'inquiète de l'état des écoles, et il le fait, il ne s'inquiète pas au nom de la liberté, de l'Allemagne, etc. C'est pas ça son problème. Ce qui l'inquiète, c'est la perte de la culture. La Kultur, c'est en allemand. C'est-à-dire l'idée qu'il ne faudrait pas qu'en massifiant l'école, on perde le sens des grandes choses, des grandes œuvres, etc. Mais ça veut donc dire que pour quelqu'un comme Nietzsche, la question de l'école, c'est la question de l'excellence, du génie. C'est une question un peu romantique, si vous voulez. C'est pas une question politique comme les Français l'avaient pensé, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pense la loi, etc. Nietzsche, d'une certaine manière, se moque. Pour lui, la politique est une chose inférieure. Ce qui l'intéresse, c'est le grand génie. C'est comment comment est-ce qu'on fait pour avoir un Goethe? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un Bach? Comment on fait pour avoir un Mozart? Voilà. C'est ça l'enjeu de l'instruction pour Nietzsche. Donc, si vous voulez, cette évocation d'un modèle autre permet de comprendre qu'il y a vraiment une originalité du modèle français, d'une école qui est non pas politisée, mais au service d'une conception de la politique. Bon. J'ai essayé de vous montrer en quoi est-ce qu'elle consistait, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'elle était solidaire d'une pédagogie et d'une politique scolaire, d'une politique publique, voyez. Et j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui que l'apparente relégation ou l'affaiblissement du modèle scolaire français peut s'expliquer par la conjugaison de trois fronts. L'un qui porte sur la remise en cause du caractère public de l'éducation avec la force du privé. Alors là-dessus, le privé, il faut être clair. Je sais, par exemple, c'est le cas, moi c'est peut-être une des limites que j'apporterai au propos d'Eddy Calvi, c'est qu'il tend à brandir un petit peu, si vous voulez, le spectre d'un retour des curés, quoi. C'est-à-dire, il dit voilà, il y a des ultra... Alors c'est vrai qu'il met en avant des textes d'ultra-catholiques, etc., en disant bon, quand on a une sensibilité des Lumières, effectivement, on peut sombrer assez vite dans l'anticléricalisme, si vous voulez, je veux dire. Mais... aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que le vrai privé, entre guillemets le privé influent, c'est pas quelques groupuscules traditionnalistes qui veulent pouvoir enseigner le rite tridentin à l'école. Le vrai enjeu, il est économique. Le vrai enjeu, il est économique. Et aujourd'hui, la force de l'école privée, c'est précisément qu'elle est mise au service des stratégies privées des familles. C'est-à-dire qu'en gros, on envoie ses enfants dans des écoles privées pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent intégrer telle école, etc. L'enjeu, il est purement, entre guillemets, il relève de ce qu'on appelle les stratégies scolaires des familles. Et là-dessus, il faut se noter qu'il y a un marché terrible, un immense marché, que un des leaders du cours particulier, Acadomia, vous connaissez tous les pubs d'Acadomia, a été introduit en bourse en 1999, Acadomia. Donc, dans le rapport de cette introduction en bourse, Acadomia estimait en France à 4,4 milliards d'euros le marché de l'éducation, c'est-à-dire du service d'éducation, de l'accompagnement. Quelques signes qui vont là aussi. J'ai pas les dernières. Oui.
En comparaison, le budget de l'éducation nationale, c'est.
Il est à 8 milliards. Attendez, je vais dire une connerie.
Non, il est plus. 40 milliards d'euros.
Bon, sur les questions de chiffres, j'ai pas mes notes.
Non, parce que je travaille sur la dette.
Ouais.
Donc je sais que...
C'est la meilleure manière de connaître...
Voilà. Donc je sais qu'à 44 milliards, c'était la dette en 2009 était le deuxième poste budgétaire de l'État. Et à 50 milliards, en 2010, ce sera le premier poste. Donc j'en déduis que le budget de l'éducation nationale est entre 44 et 50 milliards.
D'accord. Bon, ben, je vous remercie.
Il semblait que c'était 60, mais... Ça se trouve facilement.
Ça peut-être être largement réduit depuis quelques années.
Non,
c'est l'inverse. Oui, parce qu'en fait, tous les postes qui sont supprimés sont repayés sous forme d'heures supplémentaires, en fait. Donc l'économie est marginale, en fait, Mais l'intérêt, c'est que si vous voulez, des postes, des heures supplémentaires, ça peut être supprimé d'une année sur l'autre, par un poste. Donc ça crée une marge qui est supérieure. Je voulais vous donner aussi quelques autres évolutions qui vont dans ce sens-là, de la privatisation, c'est le fait que l'État organise aujourd'hui une forme de sous-traitance de ses services. Il y a par exemple une boîte qui s'appelle Paraschool, qui a signé une trentaine de contrats avec des conseils généraux, parce que les conseils généraux qui veulent afficher des politiques scolaires payent en gros du soutien individualisé qui est effectué dans des collèges. Dans les collèges qui sont donc administrés par les conseils généraux en question, vous avez des gens de Paraschool qui viennent faire du soutien scolaire. Donc évidemment, là encore, on a une forme de subvention directe d'une forme d'école privée, qui n'est pas l'école confessionnelle. Et évidemment, ces états de fait expliquent pourquoi est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Ségolène Royal, il y a quelques années, avait dit « pourquoi est-ce que des profs trouvent le temps de cachetonner chez Acadomia alors qu'on pourrait leur faire faire des heures supplémentaires, enfin, des heures pour faire ce soutien-là ?» Donc, vous avez donc Paraschool. Vous avez une autre boîte qui s'appelle Fortprof. Fortprof, c'est le marché de la formation d'enseignants. Ça a été fondé par un ancien professeur des écoles qui a monté une boîte pour préparer au concours de professeur des écoles. Et qui aujourd'hui, c'est une boîte qui marche très bien, Fortprof. Moi j'ai même vu des élèves stagiaires qui avaient fait toute leur formation par Fortprof et pas en IUFM. Donc C'était assez intéressant. Fort-Prof, par exemple, aujourd'hui, en septembre, avait mis en vente, entre guillemets, une formation express, prise de classe. Vous savez, comme on a supprimé en septembre les stages professionnels, ils ont fait un peu d'argent sur le stress qui est bien naturel de d'étudiants lauréats qui, en juillet étaient encore étudiants et en septembre devaient être en pleine responsabilité dans les classes. Donc, ils devaient payer, s'ils voulaient un stage, etc., d'assistant. Donc, voilà, on voit bien s'organise une forme de sous-traitance ou de marché, qui n'est marginal, j'ai envie de dire, que par sa définition, hein, mais qui est sans doute très substantielle. Donc, il y a vraiment une ligne de front entre la reconfessionnalisation, qui me semble, moi je minorerais le diagnostic d'Eddie Caldi, une reconfessionnalisation de l'éducation en France, et puis surtout une privatisation et en tout cas l'assimilation progressive de l'éducation à un marché de services. Vous savez qu'il faudrait rajouter le contexte européen où aux yeux de la Commission européenne, l'éducation fait partie des activités qui sont libéralisables parce que relevant d'une économie de services. À la différence par exemple de la police ou de la justice, comme vous en doutez. Deuxième aspect de remise en cause dont je vous avais parlé, c'était évidemment non pas la privatisation mais cette question de la pédagogie. Aujourd'hui l'école est un lieu qui est très incertain sur le sens des savoirs et des méthodologies qu'il faut développer. C'est-à-dire que une question récurrente quand vous lisez de la littérature sur l'école, c'est la question du sens des savoirs, qu'enseigner, que faire, etc. Et les positions classiques, entre guillemets, républicaines ou pédagogiques, sont souvent des secours pour aborder ces questions-là, mais voyez également comment l'État s'en empare, par exemple, depuis la dernière loi cadre, la loi Fillon de 2005, avec une de ses grandes innovations, c'était le fameux socle commun de connaissances et de compétences. Ce socle commun est censé donner un horizon pédagogique de ce qu'il faut savoir faire et être, une fois qu'on a fait sa scolarité obligatoire. Le socle commun est là aussi un des grands points sur lesquels se cristallise le débat pédagogique. Certains l'ont appelé un SMIC scolaire, c'est-à-dire vraiment un truc, le minimum, etc. D'autres ont dit que c'était des ambitions totalement faramineuses que ce socle commun. Se pose la question de savoir si on l'évalue. Hein, est-ce qu'on l'évalue comme un examen ? C'est pas censé être un examen, c'est censé... Voilà, donner un horizon de compétences et de connaissances, c'est pas comme un examen qui donne accès à un diplôme. Bon, donc si vous voulez, le socle commun est un enjeu un petit peu important qui cristallise un débat sur les savoirs et sur leur sens, alors même que, et c'est le troisième point, l'école me semble être un terrain qui est essentiellement soumis à une forte pression économique, c'est-à-dire qu'au fond, la question de la légitimité des savoirs s'efface assez vite, face à la question de la pertinence de certains choix d'orientation et de l'optimisation des cursus scolaires. C'est pourquoi, au fond, c'est une des ambiguïtés du socle commun. Il a été préparé par un rapport d'une commission, qui était la commission Tello, qui justifiait le socle commun au nom de la démocratie, c'est-à-dire, on va dire, d'ambition égalitaire. Il faut spécifier ce que chacun va pouvoir... obtenir à la fin de sa scolarité, mais en même temps avec cette idée que si on définit un socle commun, on pourra, je cite à peu près de tête, l'institution pourra satisfaire sereinement à sa mission de sélection des élites. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que définir un socle commun, c'est aussi dire voilà le minimum, et on a enfin... C'est aussi un effort pour déculpabiliser une fonction qu'il a encore... il ne faut pas se leurrer. C'est bien d'avoir des ingénieurs, des cadres, etc. Il faut les former. Mais c'est aussi ce qui montre que le débat sur le fond de l'enseignement est contaminé par la question, non pas du fond, mais de son utilisation à des fins économiques. Et il me semble là-dessus que la privatisation de l'école, même si on peut mettre en avant ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire la confessionnalisation ou l'instrumentalisation économique par les familles, peut-être que cette privatisation doit être surtout comprise comme une forme d'utilitarisme. Moi, c'est là-dessus que j'ai tendance à conclure ou à arriver, en tout cas pour ce soir, sur l'idée que l'école aujourd'hui, ce qui permet de comprendre la fin peut-être de la conception organique de l'école, c'est qu'on est passé évidemment d'une école qui se pensait en rapport avec l'ensemble de la structure politique, à une école qui est aujourd'hui essentiellement dispensatrice d'un service, c'est-à-dire d'une école qui doit être utile. Et j'ai essayé de vous montrer que cette idée de l'utilitarisme scolaire, d'une école au service de quelque chose, qui n'est pas des fins politiques ou morales, ça dépasse, entre guillemets, le simple discours de dénonciation d'une privatisation en disant, oh, regardez, fort prof, regardez. C'est vrai. Mais il faut réfléchir, je pense, en amont sur ceci, que c'est l'État qui organise cette privatisation ou cette sous-traitance. Elle l'organise au nom d'une privatisation qui est peut-être plus radicale, qui consiste à dire que l'école doit servir à la professionnalisation et à l'insertion professionnelle des élèves. Se pose la question de savoir si l'école reste donc aujourd'hui un organe politique ou est-ce qu'elle n'est simplement qu'une fonction de tri, de sélection, de formation propre à une économie qui a assez largement pris le pas sur le politique. Voilà, c'est ce que je voulais dire.